Stéphane Bern, comment faites-vous pour dépoussiérer le patrimoine?
Je ne sais pas s'il a besoin de dépoussiérer, il avait juste besoin qu'on montre aux compatriotes son intérêt. C'est-à-dire, on pensait que c'était comme un vieux meuble, si vous voulez, qui est là et auquel on ne faisait plus attention. En réalité, dès lors que vous racontez une histoire en disant que c'est quoi le patrimoine? C'est le témoignage de notre histoire, des strates successives de notre histoire commune. C'est de l'identité qui n'est pas hystérisée, qui est plutôt sereine. Ça crée du lien aussi, notamment dans les territoires ruraux, où, il faut le rappeler, le patrimoine est plus important que dans les villes, puisque 52% de notre patrimoine est dans des communes de moins de 2000 habitants. Donc c'est tout ça que vous essayez de raconter. Puis vous aussi que ça a un impact sur l'économie des territoires. C'est souvent la seule richesse d'un village. Alors les gens du coup voient leur patrimoine autrement, le patrimoine de proximité. Et je crois que les Français, de manière générale, ont toujours aimé le patrimoine. Mais quand on disait patrimoine, on pensait château de Versailles et Chambord. Alors qu'il y a mille autres façons de parler du patrimoine et des dizaines d'autres exemples qui montrent qu'il n'y a pas que les chantiers monumentaux.
Selon vous, qu'est-ce qui fait le succès de vos émissions sur le patrimoine?
C'est difficile à dire, mais je pense que c'est justement de réveiller la fierté des gens de vivre dans leur village, dans les lieux. En fait, les gens ont le sentiment que je valorise leur village, le patrimoine de là où ils habitent. Et ce sont des émissions qui font du bien, où tout d'un coup, les gens se sentent assez fiers d'être français, fiers de renouer justement avec leurs racines, leurs traditions, leur histoire. Je crois que c'est tous ces éléments qui font que ça donne... des émissions positives, vous voyez, par rapport à tout ce qu'on peut voir comme émission, où justement, on a l'impression qu'on nous met la tête sous l'eau.
Ne vous sentez-vous pas trop seul à défendre le patrimoine?
Non, j'ai au contraire le sentiment qu'il y a toute une armée de millions de bénévoles qui sont derrière moi, qui me soutiennent. Il y a aussi des millions de Français qui achètent les tickets de loto patrimoine. Donc, au fond, non. Je ne me suis jamais senti aussi peu seul, justement, mais terriblement bien accompagné par des gens qui ont vraiment envie de défendre. Je crois que j'ai participé, modestement, à réveiller la ferveur des Français pour le patrimoine. Et donc, je ne me sens pas seul du tout. Ceux qui se sentent seuls, à mon avis, ce sont les démolisseurs, ceux qui ont plutôt envie de faire du passé table rase.
Quels sont vos objectifs lorsque vous mettez en avant le patrimoine?
L'objectif principal, c'est d'aider mon pays, c'est de servir en soi le patrimoine. En 6 ans, on a déjà sauvé 800 monuments, récolté 230 millions d'euros pour aider le patrimoine à se reconstruire ou à être restauré. C'est ma façon à moi de rendre mon pays ce qu'il m'a donné, une éducation, des études, vous voyez, je pense qu'on est tous comme citoyens, on est tous collectivement et individuellement dépositaires de ce patrimoine. C'est d'essayer de raconter et de défendre l'histoire et le patrimoine qui vont ensemble. Hein. On ne peut pas sauver des vieilles pierres, c'est raconter une histoire. On ne peut pas raconter une histoire sans témoignage bête.
Selon vous, que faut-il encore faire pour le patrimoine?
D'agir les démolisseurs. Ces maires de communes, notamment d'Alsace ou ailleurs, qui pensent que tout ça c'est emmerdant, tout ça c'est ça coûte cher à la collectivité, il faudrait détruire. Je leur dis, le patrimoine c'est pas un coût, c'est un investissement, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Donc déjà, et je peux leur expliquer en long, en large, en travers pourquoi. Et ensuite, ce qu'il faudrait, c'est continuer cette prise de conscience. C'est pas forcément une question d'argent, parce que voyez-vous, avec 2 milliards d'euros, on reste surtout le patrimoine français. Donc c'est pas excessif, hein. On est déjà à 230 millions. La Covid a coûté beaucoup plus cher. Enfin oui, il y a d'autres causes nationales qui ont coûté beaucoup plus cher. Donc c'est pas une question de prix, c'est une question d'engagement, de volonté politique aussi. Et voilà, moi ce que j'essaie de faire, c'est d'encourager. Vous n'imaginez pas le nombre d'associations dans tous les villages. d'associations de défense, d'un moulin, d'un musée. En fait, c'est de la culture qui irrigue comme ça notre pays.
Quels sont les joyaux cachés que vous pourriez recommander dans nos régions ?
Oh, c'est difficile, là, vous me demandez de me fâcher avec tous les autres. Non, j'ai une passion, évidemment, pour le centre Val-de-Loire, d'abord parce que c'est une terre d'art et d'histoire avec les châteaux de la Loire, mais pas seulement. Il y a aussi du patrimoine industriel et ouvrier qui me plaît. Je pense, par exemple, à la rotonde ferroviaire de Montavon qui se trouve dans la Sarthe, le pays de la Loire et non pas dans le centre Val-de-Loire. Mais j'aime l'Alsace et la Bretagne, évidemment, parce que ce sont des terres où on cultive quand même la tradition et le respect de son histoire. Ce sont des régions à forte identité culturelle. Mais en réalité, quand vous dirigez une mission comme la mission patrimoine, vous rendez compte qu'il y a des joyaux partout en France. C'est incroyable, la richesse, la diversité, la variété de notre patrimoine. Tous les trésors qu'on rencontre quand on voyage en France, c'est fabuleux. Mais les gens ne se rendent pas compte. Alors moi, j'ai cette chance de pouvoir traiter tous les dossiers, d'aller un peu partout. Et je m'en rends compte, donc je suis assez heureux de vivre dans un pays de cocagne. Vous avez la mer, la montagne, la campagne, on a tout. Et avec un patrimoine très riche et très varié.
Néo-rural, vous avez longtemps habité Paris. Et en même temps, vous incarnez parfaitement le terroir. N'est-ce pas contradictoire ?
Je pense que c'est si j'incarne peut-être cette image de la néo-ruralité, c'est parce que j'ai quitté Paris avec fracas et que je me suis installé chez moi en Eure-et-Loire, dans une vraie campagne. Et que au fond... Je pense que mes émissions ont plaidé avant pour moi, en chantant les monuments ou les villages. Je fais partie des rares animateurs qui sortent de leurs studios parisiens. Enfin, j'y vais jamais dans les studios parisiens. Moi, je passe ma vie plutôt sur le terrain, dans les territoires, dans toutes les régions de France. Donc, en fait, j'ai cette image-là grâce à ça, c'est que les gens me voient. Et ils ne me voient pas seulement derrière un petit écran, ils me voient sur le terrain. Et ensuite, je vous dis parce que en vivant à plein temps en Eure-et-Loire, je deviens le porte-parole aussi de la néo-ruralité, cette nouvelle ruralité où on prend conscience que on ne supporte plus de vivre dans les villes, que on a besoin de retrouver du vert, de la le calme, les oiseaux, les animaux, enfin la biodiversité, et ce que nous apporte humainement la vie à la campagne.